I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui met l'actualité technologique à la portée de tous. Nous sommes en avril 2009 et c'est l'épisode numéro 6, un épisode hallucinant. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle actualité technologique, internet et gadgets. Et aujourd'hui, on a tout plein de sujets incroyables à vous proposer. On va parler de la loi Adopi, de Google, de Twitter évidemment, de l'iPhone et de tout plein d'autres choses. Et pour m'aider à avoir les meilleurs avis et les meilleures analyses sur ces sujets, j'ai, comme d'habitude, fidèle au rendez-vous, Yann, le plus grand programmateur et programmeur de l'histoire de France. Je crois que tu as reçu une médaille à ce sujet, non ?
C'est ça, vas-y, essaie de passer de la pommade pour essayer de faire oublier aux auditeurs cet affront que tu m'as fait au dernier épisode où vous avez lâchement profité de mon absence pour pouvoir prédire des choses où j'aurais sauté par la fenêtre si j'étais là. Ouais. Mais ça fait quand même plaisir de vous entendre tous. Et j'ai passé deux petites semaines à faire du yoga et essayer de ne pas trop revenir sur les sujets qui ont été abordés. Je pense notamment à OnLive, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais en tout cas, ça fait très plaisir d'être là pour ce nouvel épisode.
Eh ben, on est content de t'avoir. Et bien sûr, plus grand expatrié du pays, Jeff, qui nous rejoint depuis la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff ?
Bonjour à tous, et rappelle-toi, Yann, les absents ont toujours tort.
Ouais.
D'ailleurs, je propose que nous appelions ce n'est plus le rendez-vous tech, c'est le rendez-vous tweet, puisque de toute façon, chaque semaine, on parle de Twitter.
Ah bah donc, ça,
ouais. Ça, c'est sûr. Prenons acte et changeons le nom de l'émission, le rendez-vous tweet.
En plus, cette fois-ci, on aura encore des news sur Twitter. Alors, tu vois, tu penses pas si bien dire.
Ouais, bah, on a désormais le quart d'heure Twitter. Hein, c'est
ouais, absolument.
Ouais, avec la petite musique. Écoutez, on va se lancer immédiatement parce qu'on a vraiment beaucoup de choses dont on veut parler. Et le premier sujet sur lequel on va pas passer trop longtemps non plus parce que tout le monde en a parlé en long, en large et en travers, c'est la loi Adopi et ce qui lui est arrivé cette semaine. Et comme Yann a été le premier à noter ce sujet dans les notes, je vais le laisser l'évoquer.
Oui, alors bon, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui s'est passé au niveau de cette loi Adopi, qui, pour dire les choses rapidement, est juste une mesure qu'a essayé de mettre en place le gouvernement pour pouvoir freiner le piratage dans l'Hexagone. Et cette loi avait l'air d'être bien parti pour être adopté. Et puis finalement, le 9 avril, il y a quelques jours, au moment où ça devait véritablement être voté, eh bien, ça a été rejeté par l'Assemblée nationale. Ça a été un tremblement de terre incroyable. Et donc, du coup, le projet qui était porté par Albanel, je crois, a été donc rejeté et personne ne s'y attendait. Alors, il paraît que ça va être à nouveau représenté dans une forme plus ou moins modifiée vers le 27, si j'ai bien compris. Mais pour le moment, les gens qui étaient favorables à cette loi sont dans les cordes et on ne sait pas vraiment comment ça va se passer par la suite. Mais a priori, ce n'est pas passé et c'est une bonne surprise pour les gens qui essayaient de défendre finalement le droit à la vie privée. D'autant plus que c'était vraiment quelque chose de très très compliqué à mettre en place d'un point de vue technique. Les experts se mettaient tous d'accord sur le fait que c'était absolument impossible de mettre ce genre de mesures en place, de véritablement pouvoir analyser tout le trafic peer-to-peer, torrent et identifier les personnes qui pirataient. Pour quelqu'un qui s'y connaissait un minimum en technologie, en informatique plutôt, on voyait tout de suite que c'était extrêmement compliqué, voire impossible d'appliquer cette loi en l'état. Et je pense également que c'est pour ça aussi que la loi n'est pas passée.
C'est l'une des raisons, certainement. Et d'ailleurs, comme tu le disais, elle va être remise sur le tapis à la rentrée parlementaire, donc sans doute vers le 27 ou le 28. Et à ce sujet, j'ai vu sur le blog de notre ami Corben qu'il y a une manifestation à Paris qui est organisée le 25 avril à 14h. Les manifestants, les partisans, les anti-loi Hadopi vont se réunir le 25, donc, pour un petit peu manifester leur mécontentement. Donc, si vous voulez que les choses se passent peut-être un petit peu mieux la fois suivante, vous pouvez aller à cette manifestation. Tous les détails sont sur le blog de Corben, sur corben.info. Sachant que, moi, le truc qui m'a le plus choqué, finalement, c'est vrai que tout ça était une histoire un petit peu étonnante. En tout cas, le rejet de la loi était un petit peu étonnant, puisqu'elle avait été votée au Sénat et qu'elle n'a pas été votée à l'Assemblée. Mais ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est qu'il n'y avait que 16 sénateurs en première lecture et 40 députés environ en deuxième lecture. Et il me semble d'une part hallucinant sur le principe qu'il y ait aussi peu de sénateurs et de députés pour voter les lois qui gouvernent notre pays. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont à faire de si important qu'ils n'ont pas
incroyable.
Le travail. C'est hallucinant. Je veux dire, là, on parle même au-delà de la loi Hadopi en elle-même. 16 sénateurs et 40 députés, je veux dire, c'est... Enfin bon, moi, ça m'a mis hors de moi pour ce point précis. Mais bon.
Ce qui est d'autant plus. C'était une séance de nuit.
C'était une séance en journée, sauf que je sais pas, peut-être que les vacances étaient proches ou j'en sais rien. Mais non, c'était en journée.
Ce qui était incroyable en plus, c'est que quand tu regardais le traitement de cet événement sur TF1, dans le journal de 20h, on te montrait des images qui étaient censées être, finalement, cette loi être en train d'être votée dans l'Assemblée, mais c'était des images qui n'avaient rien à voir, en fait, où on te montrait une assemblée pleine avec des centaines de personnes dedans, alors qu'en fait, ils étaient que 16, mais pour pouvoir montrer au journal qu'il y avait, tout le monde était derrière cette loi, ils avaient pris des images d'archives où il y avait plein de gens et ils disaient, voilà, vous voyez, il y a plein de monde qui était d'accord pour pouvoir voter tout le monde était derrière la loi, quoi. Donc, ça a été très mal vu par la communauté tech. Qui voyait encore là, de la part des médias, une manipulation, etc. Ouais, voilà, exactement.
Pour le coup, si effectivement ils ont été chercher des images d'archives, alors que moi j'ai vu les véritables images, donc elles étaient disponibles, il y a effectivement un minimum de manipulation. En tout cas, le fait qu'ils aient été si peu nombreux est proprement scandaleux. Ceci dit, nous on en a beaucoup entendu parler ici. Est-ce que ça a fait du bruit aux États-Unis aussi? Parce que c'est un petit peu une... on est les précurseurs dans ce domaine, mais la loi a inspiré beaucoup de pays en Europe et ailleurs. Vous en avez entendu parler de la loi Hadopi ou pas du tout?
Relativement peu. On a entendu parler de la loi elle-même, on a entendu parler du fait qu'elle avait été rejetée, mais il y a eu très peu de couverture prime time sur le sujet. Essentiellement, je l'ai vu dans les blogs. Cela dit, je ne regarde pas beaucoup la télé. À mon avis, ce sera quelque chose qui sera couvert par les news américaines le jour où ça viendra ici.
Oui, d'accord. À propos des blogs, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Kevin Rose de Dig.com, le site bien connu, a fait une interview de Trent Reznor, puisqu'on parle de la musique et des nouvelles technologies dans ce domaine. Trent Reznor est bien sûr le leader du groupe Nine Inch Nails, qui est très présent dans l'espace Internet et qui a eu des initiatives vraiment innovantes dans ce domaine. Il a mis sa musique à disposition gratuitement, en proposant aux gens de payer s'ils voulaient acheter le CD, mais ces gens-là avaient déjà eu accès à la musique, aux albums entiers, etc. Il a fait plein d'initiatives de ce genre-là. Et c'est vraiment intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur la chose. Et lui, il va carrément plus loin que les analystes sur le sujet. Et il dit, de toute façon, il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, la musique est gratuite. Il n'y a même pas à discuter. La musique est gratuite, non pas parce qu'on a envie qu'elle soit gratuite, mais parce que de fait, il est impossible d'en arrêter la diffusion sur les réseaux pirates, sur les sites de partage. Donc, de fait, acceptons cette réalité et essayons de travailler avec cette réalité au lieu de se battre contre des moulins à vent. Et autant on le sait tous au fond de nous, autant l'entendre dire comme ça, moi, m'a un petit peu ouvert les yeux, parce que quoi qu'on essaye de faire, finalement, aujourd'hui, c'est vrai, la musique sera disponible de toute façon. Et quelles que soient les lois Adopi qu'on essaye de mettre en place, la musique sera téléchargée ou écoutée, ou d'une manière ou d'une autre, disponible. Donc, le fait de le dire aussi clairement, pour moi, était quelque chose de salvateur. Et je pense qu'il faut effectivement travailler autour de cette réalité et développer des modèles économiques qui soient cohérents avec la réalité, quoi.
Enfin, on voit des modèles comme Spotify qui commencent à arriver, qui ont un modèle complètement différent de ce à quoi on était déjà habitué, et ça marche plutôt bien, quoi. Donc je pense qu'effectivement les majors ont tout intérêt à faire entrer ce genre de philosophie dans leur crâne, et j'espère qu'au moins d'ici 2 ou 3 années on voit des choses un peu plus révolutionnaires pour la distribution de musique et de films, quoi.
Ouais, c'est vrai, espérons.
Ça mettra beaucoup de temps, ils y vont complètement à reculons. Ils préféreront toujours utiliser l'arme légale et l'attaque plutôt que devoir changer leur modèle de business. Aujourd'hui, on voit qu'une grosse partie des revenus du monde de la musique, c'est au travers des concerts, au travers des événements live, au travers des produits dérivés. Et comme tu le disais, il faut qu'ils reconnaissent et que maintenant, la musique soit disponible à tout le monde sous forme téléchargée. Et si jamais tu veux effectivement acheter un CD, à ce moment-là, tu le payes. Mais ce ne sera qu'une petite partie des ventes.
Ce qui est bon, sans repartir sur le débat sur la musique en général, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé et qui est très très vaste, et puis on va rien apprendre de complètement nouveau. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que les artistes ne font pas énormément d'argent par la vente de CD. Ils font à part les mégastars, le principal de leurs revenus se fait à travers les concerts. Donc, il n'est pas inimaginable que certains comme Nine Inch Nails ou comme, je prends au hasard, Jonathan Colton, qui est un musicien geek très très populaire, il n'est pas impossible qu'il se débrouille pour trouver des modèles économiques qui se passent des majors, et que les majors soient ensuite obligés d'essayer de rattraper le train pour une certaine catégorie d'artistes. Il est évident que les gens comme Justin Timberlake ou Madonna auront toujours besoin des majors, mais bon. Enfin bon, effectivement, on pourrait.
Oui, mais tu vois la chose intéressante, mmh. C'est que même les très grands artistes, comme ceux que tu as cités, commencent à avoir leur propre maison de distribution. Ils arrêtent leur contrat avec les majors de manière à avoir beaucoup plus de flexibilité sur la musique et la façon dont ils veulent la distribuer. Donc même au niveau des artistes les plus populaires, tu vas avoir des gros changements.
C'est certain, oui. Et c'est ça qui est terrible, parce que finalement, moi, les majors, je leur veux pas spécialement de mal. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, un pied après l'autre, quoi. Et ils sont en train de prendre un retard qu'ils n'auront sans doute pas de possibilité de rattraper. Et comme le disait Trent Reznor dans cette interview, le truc, c'est que ces gens-là qu'ils fréquentent ne savent pas se servir d'Internet. Et pour boucler la boucle avec Adopi, c'est le même problème. Les gens qui en parlent et qui parlent de sanctions du type « oui, on va couper Internet, mais c'est pas la fin du monde », ce sont des gens qui ne se servent pas d'Internet. S'ils se servaient d'Internet, ils comprendraient les conséquences de ce type de sanctions. Ils comprendraient que, effectivement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'ils imaginent. Enfin bon, bref. Je suis.
C'est pas la bonne génération, ça va évoluer.
C'est vrai.
Tu vois des gens comme. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a un compte Twitter.
Tout à fait.
Ouais. C'est des choses qu'ils comprennent. Bon, il faut attendre que toute cette vieille vague de politiciens passe à la retraite.
Oui, mais juste pour définitivement. Définitivement clore ce sujet Adopi. J'aimerais juste citer Christian Engström. Je prononce sûrement très très mal son nom de famille, mais c'est le responsable, donc de le vice-président du parti pirate suédois, qui explique que finalement ils ont mis en place un système similaire à l'Adopi en Suède, et que le jour où ce truc est rentré en place, ils ont remarqué une diminution du trafic internet de 33%. Et il explique que ça a duré à peu près 2 semaines, et qu'après le trafic est revenu à la normale, et il soupçonne qu'en fait, quand c'était les 2 semaines en question, c'était juste le temps nécessaire pour que les internautes comprennent comment faire pour pouvoir passer incognito au niveau de... Enfin, télécharger de façon illégale, mais de façon incognito. Ce qui montre très bien que les gens qui mettent en place ce genre de structure ne comprennent pas comment fonctionne Internet, et que c'est vraiment une passoire, quoi, et que ce n'est pas du tout la bonne approche pour pouvoir contrer ce phénomène, quoi. Je voulais juste rajouter ce dernier petit point avant de poursuivre sur le sujet suivant.
Tout à fait. Bon, allez, d'ailleurs, sujet suivant, on revient aux histoires de l'industrie de la presse, en parlant de gens qui sont en train de mourir, malheureusement. Hein. L'industrie de la presse se débat aussi autant qu'elle peut, et ces dernières semaines, on a eu beaucoup d'histoires qui sont ressorties, notamment émanant de l'Associated Press, qui est une agence de presse américaine, et de la National... c'est Newspaper Agency Association of America, pardon, National Association of America, c'est la NAA, pour deux histoires différentes, mais toutes deux concernant Google. En gros, leur problème, c'est que ils n'arrivent plus à monétiser leurs informations et ils se plaignent que Google retransmet l'information sans payer de droits sur leurs histoires. Sur leurs histoires, sur leurs informations. Alors, le truc, c'est que c'est encore des gens qui ne comprennent pas la manière dont fonctionne Internet, parce que, évidemment, Google, quand il parle d'une information qui appartient à la société de presse, met un lien vers l'histoire d'origine et ça apporte du trafic à la société de presse. Donc, il est évident que dans Internet, le principe même est de faire des liens d'un truc à l'autre et donc que quand Google va en parler, ça va être bénéfique pour la société de presse. Mais eux, ils ont une vision très, très étroite de la chose jusqu'à, par exemple, jusqu'à reprocher à un site qui est partenaire, donc qui est licencié par la société de presse, de mettre un lien sur une vidéo YouTube qui est tirée du canal de la société de presse, du canal YouTube de la société de presse. Donc, ce journal a mis dans sa page une histoire de la société de presse en payant la société de presse et ils ont reçu un courrier de leurs avocats en disant non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de diffuser notre information. Donc, bref, tout ça est un petit peu frustrant. Là encore, ce sont des gens qui ne comprennent pas vraiment comment ça se passe et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à bénéficier de la puissance de Google et de la puissance de diffusion de Google, d'autant plus que, soit dit en passant, au niveau de l'information, Yahoo et le New York Times font beaucoup plus de trafic que Google, on parle de Google News là, et évidemment, ils n'ont aucun souci, eux, avec la société de presse. Pourquoi ? Parce que Google a de l'argent et qu'ils peuvent espérer en tirer quelque chose, alors qu'attaquer Yahoo qui est saigné à blanc et le New York Times, ils n'en retireraient rien du tout. Donc bref, c'est un petit peu normal aussi qu'ils ne s'attaquent pas à quelqu'un qui soit totalement impossible enfin, dont ils soient impossibles de récupérer quoi que ce soit, mais tout de même. Google a répondu à cette histoire, à la NAA, en disant que les journaux devraient tous être en ligne et gratuits, et basta, et que là encore, on retrouve cette même philosophie que pour la musique, et trouver un moyen de monétiser la chose, parce que tout autre effort sera voué à l'échec de toute façon. Même si c'est un petit peu difficile à avaler, j'aurais tendance à penser que là encore, la réalité va dans ce sens-là, quoi. Bon, j'ai été un petit peu dans tous les sens... dans cette histoire, mais le résumé, c'est que Google a dit un truc qui est très vrai, c'est que au final, les gens que vous êtes en train d'attaquer sont vos consommateurs, vos clients, et à force de les énerver, de les ennuyer, de les emmerder finalement, et ben vous allez les perdre et vous n'aurez plus personne à qui fournir votre contenu. Donc réveillez-vous maintenant avant qu'il soit trop tard. En gros, ça résume un petit peu mon sentiment aussi et je pense qu'il y a là encore un problème de génération qui va être difficile à résoudre, mais qui est encore plus épineux pour la presse. Des sentiments là-dessus, tous les deux, Jeff, Yann ? Jeff, peut-être ?
C'est un problème qui est un petit peu plus large que le problème de génération dans ce cadre-là. C'est plutôt comment est-ce que tu fais en sorte que le contenu de qualité soit rémunéré sur Internet autrement que dans un mode purement... publicité. Et ce qu'il faut trouver dans ce cadre-là...
C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, pour les artistes et pour la musique, bon, tu peux toujours acheter le CD ou aller au concert ou acheter des éditions spéciales. En l'occurrence, pour la presse, c'est pas facile, quoi.
C'est un petit peu le problème. Moi, je vois la façon dont Business Week a complètement fait la bascule en utilisant tous les outils de social media où ils sont extrêmement actifs dans la communauté, et j'ai cru voir que ça s'était traduit dans une augmentation de leur trafic sur le, enfin pas de leur trafic, de leur vente de l'hebdomadaire. Donc, est-ce que les hebdomadaires sont plus à même de s'en sortir plutôt que les journaliers ? Ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est un petit peu, toute résistance est futile. Il faut impérativement que ces journaux, ces journalistes trouvent le moyen d'utiliser tous ces outils, toute cette présence online pour développer leur audience. La grosse question, c'est est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est de la souscription, est-ce que c'est des modèles qui n'existent pas encore aujourd'hui qu'il faut déterminer. Je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là.
Yann ?
Je dois dire que moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui se tire une balle dans le pied une fois de plus. Hein. Je vais pas donner d'avis plus profond que cela. Ça, c'est non, juste que ça me surprend un petit peu, quoi.
En fait, ce que tu dis, c'est un petit peu ce qu'on dit la plupart des analystes de l'industrie tech. C'est en entendant cette histoire, c'est imaginez un instant que Google et les autres décident, bon bah ok, si c'est comme ça, on va plus mettre de lien à aucune histoire de la société de presse pendant une semaine. Et puis on va voir ce que ça va vous faire, on va voir comment vous allez apprécier ce type de d'action. Il est évident que s'ils font ça, c'est la mort directe de parce que le seul endroit où ils récupèrent de l'argent aujourd'hui, c'est par Internet justement. Donc.
Ouais, c'est vrai que c'est assez ridicule. Mais en parlant de Google, justement, et comme on vous a promis en plus un quart d'heure Twitter, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Alors, c'est de l'ordre des rumeurs.
Je fais la petite musique, la petite musique du quart d'heure Twitter.
Voilà. Ok, j'espère qu'il y aura un montage derrière quand même. Alors, il y a un truc qui se passe au niveau de...
Tu veux pas être associé à ce type de...
Non, si les copains de Twitter ne parlent pas français, donc ça va.
Ok, t'auras pas la honte.
Alors, en fait, il paraît que Google est en train de faire une offre. Enfin, ils sont en train de discuter avec les gens qui sont aux manettes de Twitter. Et on parle d'une offre qui tourne autour de 250 millions de dollars pour un rachat de Twitter par Google. Et apparemment, donc, ce serait un business model qui tournerait autour d'un moteur de recherche. Donc, il faudrait croire que de la même façon qu'on peut aujourd'hui faire une recherche dans Google sur un site web ou faire une recherche d'images ou autre, ben on aura la possibilité de faire une recherche à travers Twitter comme le search.twitter.com, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, c'est apparemment le modèle économique qui serait derrière tout ça. Alors c'est à prendre avec d'énormes pincettes puisque rien n'a été confirmé, mais c'est ce qui se serait c'est ce qui se passerait dans les bureaux de Google en ce moment. Et on se demande ce que fait Microsoft, puisque c'est typiquement le genre de contrat qui pourrait les intéresser. Je sais pas si vous aviez remarqué d'ailleurs au niveau de Live Messenger, qui avait également un truc qui ressemblait. En fait, tout le monde se met à la mode Twitter. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il est également possible de dire ce qu'on est en train de faire ou de
Live passer. Messenger, ça fait un
moment. Ouais, sur Live Messenger. Ouais. Bah, c'est récemment que j'ai découvert. D'accord. Ça, mais bon, écoute, apparemment, je passe pas beaucoup de temps dessus.
Oh, c'est trop peu, c'est vrai. Je vais laisser. Ouais, vas-y, parce que toi, tu es le connaisseur de Twitter. Est-ce que tu as parlé à Beastone récemment?
C'est un sujet sur lequel ils vont pas faire de commentaires privé ou en public. Juste pour situer le débat, donc les 250 millions de dollars, c'est le prix que les investisseurs dans le dernier tour qui ont mis 35 millions dans Twitter ont payé. Donc clairement, si jamais Google ou quelqu'un d'autre voulait racheter Twitter, il faudrait payer beaucoup plus. Le chiffre qui a été mentionné, je crois que c'était aux alentours entre 500 et 1 milliard de dollars. Entre 500 millions et 1 milliard de dollars. On m'a demandé ce que j'en pensais. Ce que j'ai dit, c'était que si jamais Google dépassait les 1,5 milliard, à mon avis, il y aurait un deal à faire, parce que ça offrirait aux investisseurs un retour d'à peu près x5 sur leur investissement en très peu de temps, et éventuellement, ce serait quelque chose qui pourrait être fait.
1,5 milliard.
1,5 milliard.
C'est énorme.
Faut te rappeler que YouTube a été acheté pour 1,3 milliard.
Oui, effectivement, et pour le coup...
Donc, si tu compares l'attraction, si tu compares les choses, c'est pas forcément débile.
Bah, oui, non, c'est sûr. YouTube était plus gros, je pense, à l'époque que Twitter ne l'est aujourd'hui, mais le potentiel de Twitter est peut-être même encore plus grand que celui de YouTube. Donc,
Ouais. Enfin, 1,5 milliard, ça m'a l'air...
Surtout, les coûts.
Surtout par rapport aux rumeurs qui circulent en ce moment, où on parle plutôt de 250 millions de dollars. Donc, effectivement, ça m'a l'air d'être un gap assez énorme.
Je crois que ces chiffres-là sont plutôt pour un partenariat et pas un rachat. Mais
le partenariat dont ils ont parlé, c'est comment Twitter pourrait intégrer leurs résultats dans la recherche Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un point de vue temps réel de ce qui se passe sur le stream de Twitter, genre, ce que je fais beaucoup, moi, c'est je regarde ce qui se passe pour les boîtes dans mon portefeuille et dans leurs concurrents. Et ça me donne une impression synthétique de ce qui se raconte pour ce marché-là. Et cette information-là, tu ne peux pas l'avoir sur Google, parce que Google, ça va prendre du temps pour indexer, même si c'est des news. Tu vas avoir l'information peut-être au bout de 12 heures, 24 heures, si ce n'est plusieurs jours, alors que là, ça est en temps réel. Et donc, pour moi, clairement, il y a une composante assez intéressante, si ce n'est très forte, sur l'utilisation de Twitter en tant qu'infrastructure de recherche. La croissance de Twitter a été phénoménale depuis deux mois, et je ne sais pas te dire si à ce jour, Twitter a un reach qui est supérieur à YouTube quand ils ont été rachetés ou pas. Ce qui est clair, c'est que le coût d'infrastructure de Twitter n'a rien à voir avec celui de YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu cette news récemment qui disait que YouTube allait perdre à peu près 500 millions de dollars cette année parce que leur revenu était de l'ordre de 250 millions et leur coût était de l'ordre de 750 millions. Parce que clairement, il faut avoir une infrastructure monstrueuse pour gérer les milliards de streams qui vont servir chaque année.
Oui, c'est sûr.
Twitter, en comparaison, ça coûte rien.
C'est clair. De toute façon, moi, effectivement, sur ce sujet précisément de l'info en temps réel, j'avais fait un message sur mon blog, moi, il y a deux mois de ça, où je pressentait également que la recherche et les mots-clés étaient la chose dans laquelle ils devaient se lancer à corps perdu aujourd'hui Twitter, parce que c'était là qu'était leur vraie valeur. Et je pense que, à vrai dire, tu parlais de 1,5 milliard, je pense que non seulement Google devrait s'associer avec Twitter d'une manière ou d'une autre. Moi, je dirais même qu'ils devraient l'acheter quel que soit le prix dès aujourd'hui. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis d'amateur complet, mais non seulement Google devrait certainement faire un deal avec Twitter, mais en plus, comme tu le disais, Yann, ce que je me demande, c'est que fait Microsoft ? Que fait Microsoft ? Que fait Yahoo ? Que font les autres ? Comment se fait-il qu'il n'ait pas initié des négociations avec eux déjà depuis quelques semaines, quelques mois ? C'est encore un truc que Google va réussir à dénicher avant tout le monde et récupérer. Ça me surprend qu'ils soient les seuls sur le coup, d'après ce qu'on sait. Hein. On n'est pas dans le
secret. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls sur le coup. Je pense que toutes les boîtes qui auraient la possibilité de racheter Twitter étaient en contact, c'est-à-dire que ce soit Google, que ce soit Yahoo, que ce soit Microsoft, que ce soit Interactive Corp, que ce soit News Corp. Je suis certain qu'ils ont tous eu des discussions avec eux le jour où on a entendu qu'il y avait éventuellement un deal en cours avec Google. Et ce qui est clair aussi, c'est que d'un point de vue investisseur, parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis presque 60 millions de dollars en tout dans Twitter, t'inquiète pas que ces gens-là savent très bien que la règle pour avoir un bon prix, c'est d'avoir de la compétition. Et donc, la première chose que tu fais quand tu as quelqu'un qui t'appelle pour dire « tiens, je suis intéressé par acheter la boîte », c'est d'appeler tous les compétiteurs en disant « eh, tiens, il y a un intérêt, est-ce que les mecs voulaient avoir une discussion pour voir combien est-ce que vous voudriez payer ?» Et je connais très bien tous les investisseurs, je peux te dire qu'ils sont très très bons sur ce côté-là. Donc, il y aura ces discussions-là, et si jamais c'est Google qui, in fine, a le deal, c'est parce qu'ils auront choisi de payer le plus, quoi.
D'accord. Bon, donc c'était le petit moment Twitter. Il y a une ou deux autres choses dont on veut parler à propos de Twitter. Le premier, c'est FriendFeed, qui est un outil qui est un petit peu moins connu en France que dans le monde anglophone, qui est en fait qui vous permet de réunir toutes vos infos sur un seul flux RSS ou un seul site de manière à la diffuser à tout le monde. Moi, j'ai un flux FriendFeed qui est disponible sur le site FrenchSpin depuis longtemps. Bon, en France, il n'est pas très très utilisé, mais ils sont en train de faire une refonte de leur interface, et devinez quoi, ça ressemble aussi à Twitter. Comme quoi, après Facebook, c'est épidémie, tout le monde se met à l'heure de Twitter. Autre chose, hein, pour conclure ce petit quart d'heure Twitter, c'est l'avalanche de nouveaux clients de bureaux, de nouveaux programmes qui vous permettent de mettre à jour Twitter, dont je crois que tu as un petit peu plus suivi l'actualité, Jeff, donc là encore je vais peut-être te laisser en parler.
Oui, quasiment chaque jour, la semaine dernière, il y a un nouveau client ou une nouvelle version d'un client qui est apparu. Il y a eu le Sismic Desktop, c'était lundi ou mardi. Bon, disclosure, je suis un investisseur dans Sismic. Le lendemain, TweetDeck, qui est le client le plus populaire et que tu utilises maintenant d'ailleurs, Patrick, a sorti une nouvelle version. Il y a aussi des nouveaux desktops qui sortent sur l'iPhone ou sur les environnements mobiles. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de développement autour de la plateforme. Et ma réflexion personnelle, c'est que avant, on a eu les portails, donc MyYahoo. Après, on a eu les environnements flexibles de type NetVibes ou PageFlex. Et en fait, ces nouveaux environnements, ces nouveaux outils, les social desktops, vont être le portail de demain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'efforts et de développements qui sont faits dans ce monde-là.
C'est certain, oui. D'ailleurs, j'utilise aujourd'hui TweetDeck parce qu'il offre des outils de sélection, enfin de répartition par colonne des différents flux qu'on suit. Avant, j'utilisais Twirl, donc qui émanait de Sismic, donc la société de Loïc Lemeur, notre compatriote français, et donc qui est la société dans laquelle tu es investisseur, comme tu le disais. Mm-hmm. Et c'est effectivement Sismic qui sort. En fait, c'est un petit peu un remplaçant de Twirl, qui était d'ailleurs l'application que j'avais conseillée la première fois que j'avais parlé de qu'on avait parlé Twitter ensemble dans cette émission. Donc, il faut jeter un coup d'œil à ce client aussi, parce que je n'en entends que du bien. Donc, moi, je vais y jeter un coup d'œil également. Sismic Desktop, qui est encore en bêta, hein, si je ne m'abuse.
C'est en preview, c'est-à-dire que c'est encore bourré de bugs. On peut l'utiliser si on est un peu aventurier, mais si vous voulez quelque chose qui est très, très stable, je conseillerais de rester sur Twirl. Mais c'est vrai que l'avantage de Sismic Desktop, c'est d'avoir aujourd'hui plusieurs comptes Twitter intégrés, demain compte Twitter, compte Identica, compte Facebook, avec l'ensemble de tous les éléments, que ce soit les news, etc., enfin les news du stream qui arrivent dans une fenêtre avec la possibilité de répartir un petit peu comme tu le fais aujourd'hui chez TweetDeck, et c'est clairement la direction dans laquelle ces outils doivent aller.
Tout à fait. Et ben, on parlait également d'applications sur iPhone, et ben, ça nous permet de faire une transition très très élégante vers une nouvelle qui a pas forcément surpris, mais en tout cas impressionné beaucoup de gens il y a quelques jours. C'est le fait que Apple est en train de se diriger, pas si lentement que ça, mais très sûrement, vers le milliard d'applications téléchargées. Alors, un milliard, ça fait beaucoup, et c'est arrivé en relativement peu de temps, et c'est pourtant vrai, c'est bien le cas. Il y a une page qui vous permet de suivre l'évolution du chiffre. Alors, je ne sais pas où on en est en ce moment. Tiens, je vais aller voir tout de suite. Mais on s'approche très très rapidement du milliard d'applications téléchargées. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus.
C'est incroyable quand même.
C'est incroyable.
Un milliard, ça fait combien de temps qu'il est sorti le truc ?
Ça fait quoi ? Ça fait 9 mois ?
Ouais, même pas. Même 9 pas un an, ouais, t'as raison.
Et ils prennent combien par transaction payante ? 20%, c'est ça ?
30%.
30%.
30%. T'imagines un petit peu la quantité astronomique de.
Bon, ouais, il y a certainement, il y a une grosse partie d'applications gratuites hein, dans le lot, c'est évident. Mais il n'empêche, aujourd'hui, je suis en train de regarder. À l'heure où je vous parle, il y a le petit compteur qui est assez amusant, qui a 942 672 700 800 900 1000. ça va à cette vitesse, quoi. C'est
hallucinant.
Voilà.
Hallucinant. Mais ça fusionne aussi les applis gratuites.
Oui, c'est les deux. Le compteur, c'est tout. Okay. Petit jeu, tiens, pour faire interagir la chatroom. Est-ce que vous avez une idée des applications gratuites les plus téléchargées ? N'allez pas voir sur le site. Hein. Dites-nous comme ça, à votre avis, l'application gratuite la plus téléchargée, c'est laquelle ? Essayez de nous dire un petit peu dans le monde, hein, pas en France. Ah, je pense qu'il y en a qui ont déjà vu le top. Il y en a qui, les premiers, Darkange et Who is David, ont dit Facebook, et effectivement, c'est bien Facebook. Mathias a dit TapTap Révolution, qui là encore est une application d'un des amis de Jeff, n'est-ce pas, de Tapulous, ouais. Qui est l'une des applis les plus téléchargées, effectivement, c'est une sorte de Guitar Hero sur iPhone. Skype est très téléchargé, mais il n'est pas sorti il y a assez longtemps pour être dans le top. Enfin bon, voilà, il y en a.
Mais moi, il y en a une que je recommanderais. C'est suite à Indignation que j'avais vu avec Alex Albrecht qui disait en fait compte que il y a quelque chose qui est vraiment incroyable aux États-Unis, c'est que quand t'es chez toi et que t'as un fusil à pompe, le simple fait de faire le rechargement clac clac comme ça, s'il y a un voleur chez toi, il se barre en courant directement. Et j'ai trouvé une application sur iPhone qui s'appelle Shotgun justement. Et en fait, tu fais exactement le même mouvement de chargement d'un shotgun et en fait, il reconnaît le mouvement et ça fait clac clac. Prrr. Comme ça, on fait bon. Comme ça, avec le micro, c'est pas très impressionnant, mais je te jure que c'est à mourir de rire. C'est une application qui est gratuite, ça s'appelle Shotgun, ça sert à rien du tout, mais vous éclatez avec.
T'as intérêt à le brancher sur tes enceintes quand même, parce que s'il entend le bruit à travers le.
C'est vrai, c'est vrai.
Je vais mettre un petit Jack à côté.
Pardon, t'as pas entendu, Jeff. Qu'est-ce que tu disais ?
Dans quel coin de France tu habites pour avoir besoin de ça ?
Écoute, j'habite tout près de Paris en plus, hein, mais bon,
c'est en banlieue parisienne en fait, c'est très dangereux. Bon, écoutez, si jamais le son est un peu perturbé, ne vous étonnez pas, c'est que je suis en train de télécharger Shotgun en ce moment même. Jeff,
c'est vraiment génial.
T'as une appli à recommander à nos auditeurs ? Une appli que tu préfères ? Oula.
Bah, moi, j'allais dire TapTap Revenge parce que c'est un super jeu, mais bon, là, c'est franchement de la publicité. ce qui est amusant, c'est que, ce qui nous a fait plaisir cette semaine, c'est que Comscore a sorti la liste des applications qui avaient le plus de pénétration dans le monde iPhone et iPod. Et TapTap Revenge était l'application numéro 1 avec 32%, c'est-à-dire que un iPhone sur 3 et un iPod sur 3 à TapTap Revenge. C'était devant Facebook. Moi, j'utilise pas mal d'applications mais Evernote, c'est franchement celle que j'utilise beaucoup.
Ouais, c'est cette application qui te permet d'avoir accès à des petites notes que tu peux synchroniser entre ton ordinateur et ton iPhone très simplement, c'est ça.
Voilà.
D'accord. Ouais. Donc Evernote.
Donc tu vas prendre tes notes et tu vas pouvoir les retrouver donc sur ton iPhone, tu vas pouvoir les retrouver sur le web, tu vas pouvoir les retrouver sur ta machine. C'est super pratique.
Je l'utilise aussi et il y a des plugins très utiles pour Firefox et c'est très simple. Tu peux mettre des bouts de pages web, des cartes, des images. Donc Evernote pour ceux qui ont la tête en l'air et qui veulent tout avoir dans leur iPhone. Et à propos d'iTunes, puisqu'on en parle, ils ont enfin implémenté une requête de l'industrie du disque, une requête qu'ils faisaient depuis très longtemps, c'est-à-dire d'avoir le prix, la tarification variable. Une des demandes de Steve Jobs était qu'il n'y ait plus de DRM, de DRM, tout le monde sait ce que c'est, hein, et que les prix soient fixes à 0,99 cents ou 0,99 euros. Et l'une des demandes de l'industrie du disque, c'était qu'il y ait des DRM et que les prix soient variables. Et ben, j'imagine qu'ils se sont retrouvés un petit peu au milieu du chemin. C'est-à-dire que désormais, l'ensemble de la musique est sans DRM, donc copiable facilement. Et par contre, ils ont instauré la tarification variable. Donc aujourd'hui, les morceaux de musique sur iTunes coûtent de 0,69 centimes à 1,29 centimes. En fait, il y a trois prix, 0,69, 0,99 et 1,29. Sachant que les titres qui sont très populaires sont plutôt à 1,29 et les titres qu'on appelle de catalogue, c'est-à-dire les trucs un petit peu plus vieux qui ne sont plus dans la primeur de leur jeunesse, sont plutôt dans des prix un petit peu plus réduits. Voilà, bon, moi, ça m'inspire pas plus de réflexion que ça. Voilà, ça y est maintenant.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ce truc-là, finalement, si quelqu'un a pris le temps de faire un comparatif dans les prix pour savoir si finalement, on se retrouve avec 80% de morceaux qui sont passés à 1,29€. Et donc, du coup, ce qui représenterait une augmentation des prix des morceaux sur l'iTunes, quoi. Donc, c'est vrai que je me demande si derrière, il n'y a pas juste une hausse de prix maquillée. derrière tout ça, quoi. Mais bon, faudra avoir le comparatif.
Je pense que de manière réaliste, le volume des morceaux, le gros volume des morceaux sera sur des morceaux à 1,29 parce que ça sera les morceaux les plus récents et les plus en vogue. Mais par contre, ce qui m'intéresse, alors si quelqu'un a cette information, n'hésitez pas à nous envoyer un email tech@frenchspin.com. Mais plus que ça, même si quelqu'un peut nous trouver un article ou une source un petit peu crédible qui puisse nous dire sur cette augmentation, quelle est la part qui revient à l'artiste ? Parce que j'aimerais bien savoir si, en passant de 0,99 à 1,29, les artistes ont véritablement touché plus d'argent de manière conséquente ou si ça se résume à 1 ou 2 centimes. Je serais vraiment curieux de savoir ça. Et ça, c'est l'information qui fait mal, quoi. Si c'est le cas, ça les légitimise. Si ça n'est pas le cas, bah, ça les décrédibilise une fois de plus.
Je pense qu'ils auraient changé la répartition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple va prendre 30% et va reverser 70%, et avec cette augmentation, ils ont changé cette répartition.
Moi, c'est pas tellement la part que prend Apple qui m'inquiète, c'est plutôt la part que prennent les studios. C'est-à-dire que... Tu vois ce que je veux dire ? Sur les studios, il prenait. Je sais que Trent Reznor, lui encore, se plaignait que, à l'époque où il était en contrat avec les majors, sur un CD qui était vendu 19 $, il touchait 80 centimes, ce qui est parfaitement ridicule. Et que ce soit justifié ou pas, le fait est que ça se passe comme ça avec un système où il faut déplacer des CD. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas combien les artistes touchaient sur les 99 centimes que vendaient les morceaux l'iTunes Store, mais il me paraîtrait cohérent que ça soit, puisque les majors disent c'est pour donner, pour que les artistes puissent être payés, pour que l'argent leur revienne, ben, il ne serait pas incohérent que sur les 30 centimes d'augmentation, ils en redonnent la majeure partie à l'artiste. Moi, ça serait presque un geste de bonne foi, mais... Bon, j'y crois pas trop. Si quelqu'un a une info, n'hésitez pas à nous en faire part. On parle d'Apple et quand on parle d'Apple, l'iPhone n'est jamais loin. Il y a une petite information qui est arrivée à propos de l'iPhone 3.0, du logiciel, enfin du système iPhone 3.0 qui sera disponible en juin. C'est une question d'édition de vidéo. Alors, il y a quelqu'un qui a fouillé dans la mise à jour et qui a trouvé quelque part dans une photo ou dans une vidéo un petit endroit où il était spécifié qu'il était possible de faire de l'édition, du montage de vidéo. Ce qui a donné lieu à toutes les spéculations du monde, évidemment. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'est pas impossible qu'avec la prochaine mise à jour... Et en tout cas, avec la prochaine version de l'appareil, donc le prochain modèle qui sera sans doute présenté en juin également, il soit possible de prendre des vidéos, et j'en entends un bon nombre qui se disent « enfin », parce que c'est pas trop tôt. Et il y a aussi des rumeurs qui précisent que le nouveau modèle serait équipé d'une caméra, enfin d'un appareil photo un petit peu plus performant, parce qu'il faut avouer que celui qui équipe les appareils aujourd'hui, les iPhones aujourd'hui, est complètement pourri à 2 mégapixels. Ben, le nouveau qui équiperait les nouveaux appareils serait à 3,2 mégapixels, ce qui est un petit peu mieux. Et puis il y a plein d'autres petites choses qui ont été évoquées aussi, le nouveau Wi-Fi encore plus rapide, un tuner FM auquel moi je crois pas trop, mais bon, peut-être.
Ah, ce serait génial ça, bon, le tuner FM. Ouais. Bah écoute, moi, enfin, c'est pas pour, c'est plutôt pour l'émission moi que ça m'intéresse. Tu vois, pour toutes ces personnes qui, comme moi, ont une voiture qui n'a pas de prise USB ou de prise jack où ils peuvent pas brancher leur iPhone directement sur leur radio à l'intérieur de leur véhicule. Ben, le fait que l'iPhone puisse éventuellement en émission émettre en FM, ben, ça signifierait que ben, vous mettez votre iPhone dans votre voiture, vous le configurez pour qu'il puisse émettre sur 108.3 par exemple, et vous passez votre tuner de votre bagnole sur 108.3 et vous écoutez votre musique comme ça sans avoir un câble, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et donc il y a des kits comme ça qui se vendent à la Fnac, mais le fait que qu'une version 3.0 du firmware iPhone permettrait d'avoir ce truc là, ce serait pas mal quoi. Ça m'intéresserait déjà plus que un pseudo Final Cut sur iPhone auquel je ne crois pas du tout.
Moi, je pense que si tu aimes vraiment ton iPhone, tu changes de voiture et t'arrêtes de te plaindre.
Voilà non, ce que non, je pense moi. Plutôt que je vais prendre un Palm Pre.
Ah, très belle transition. Vas-y, détaille-nous un petit peu ton idée.
Je suis surpris même de la qualité de la transition. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on vient d'avoir des informations supplémentaires sur la mise à disposition du SDK du Palm Pre, qui ça fait à peu près deux.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3 semaines qui l'ont mis à disposition sur le site de Palm, où ben, finalement...
Le SDK qui est le kit de développement, donc l'outil qu'utilisent les développeurs pour créer des applications pour ce nouveau téléphone de la marque Palm, qui est censé tout révolutionner.
Tout à fait, tout à fait. Puisque bien évidemment, une des choses critiques qu'il faudra à la sortie du Palm Pre, c'est qu'il y a un large éventail d'applications disponibles. Et c'est pour ça que Palm met très tôt à disposition ce kit qui permet de créer donc des applications sur Palm Pre. Et ce qui est de vraiment particulier avec cette plateforme, c'est que les applications sont faites en langage de client riche. Donc comprenez par là de l'HTML, du JavaScript et un bon paquet de CSS derrière, quoi. Donc si jamais vous avez des compétences là-dedans, moi je vous conseille très fortement de regarder ce qui se vend de mieux, ce qui marche vraiment très très bien sur iPhone et d'essayer dès maintenant
d'aller
faire exactement la même chose sur le Palm Pre. Comme ça vous êtes sûr de pouvoir vous payer une Maserati quelques semaines après que le Palm Pre soit sorti. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Et d'ailleurs même moi je me suis abonné j'ai ouvert un petit compte pour récupérer le SDK. J'espère l'avoir très très prochainement et on essaiera de vous tenir au courant de tout ça, quoi. Et puis Patrick, tu me disais que tu avais pu voir une nouvelle vidéo de présentation sur leur site.
Oui, tout à fait. En fait, ils ont sorti une vidéo qui n'est pas censée faire directement la promotion du téléphone, mais qui présente simplement les fonctionnalités de l'appareil. Et le truc, c'est qu'on a souvent droit à ce type de vidéo de promotion et d'explication, mais c'est souvent un petit peu confus. Ils en font beaucoup. Il y a des différentes marques qui vont essayer de vous en mettre plein la vue, qui vont faire des flashs, de la musique, des effets spéciaux et tout. Et ben là, chez Palm, ils ont bien appris la leçon d'Apple et ils ont fait une vidéo super simple avec aucune musique derrière, simplement une voix chaleureuse qui explique ce qu'elle fait sur son appareil, sur son Palm Pre. Et c'est terriblement cohérent comme approche et moi j'ai trouvé ça vraiment convaincant, quoi. On voit exactement ce qu'ils en font et c'est la première fois que je vois un plan de communication, un plan marketing qui approche la simplicité et la sobriété de ce que fait Apple. Donc moi j'avoue que je suis pas complètement convaincu par l'appareil et l'OS en lui-même, système en lui-même, sans doute. Je comprends pas pourquoi tout le monde se pâme devant ce machin, mais il a l'air correct et la manière dont ils ont géré cette présentation pour moi relève d'une grande intelligence de communication. En tout cas, je sais pas si tu l'as vu, Jeff, et si tu peux nous dire l'impression qu'elle a fait aux États-Unis. C'est sorti il y a pas longtemps, donc tu l'as peut-être pas vu.
Non, j'ai pas vu la vidéo. J'ai des boîtes qui essayent de rentrer sur le programme d'API du prêt, comme toi, Yann, et en fait ils le distribuent au compte-gouttes. Ce sur quoi elles se focalisent, ce sont les boîtes qui sont capables de sortir une application pour le 1er mai. Et ils essaient en fait de se focaliser sur les grands partenaires qui auront un impact au moment du launch. Et après, je pense que les gens comme toi et nous auront la possibilité d'y accéder.
Ah, c'est bien dommage tout ça. Ils ne pourront pas profiter d'un grand développeur et c'est pour ça que je vais rester plutôt sur l'iPhone finalement.
Tu as le kit de développement de l'iPhone, Yann ?
J'ai essayé de l'avoir, mais c'est incroyable. Déjà, tu peux pas l'avoir sur PC et sur Mac. T'es obligé d'avoir
sur
un
quoi,
Mac à
sur
base.
Sur quoi?
Bah écoute, non, honnêtement, je trouve ça complètement ridicule que tu puisses pas installer un SDK pour développer des applications sur iPhone sur un PC. C'est parfaitement ridicule. Et même moi qui ai un Mac, bah, je peux pas l'avoir non plus sur mon Mac parce que j'ai un Mac pour un PC. Alors qu'il faut un Mac avec un processeur Intel. Donc il ferme. Mais non, déjà c'est scandaleux, mais aussi c'est particulièrement stupide. Il donne le dos finalement à plein de développeurs potentiels qui sont intéressés par cette plateforme, mais parce qu'ils n'ont pas la machine qu'il faut, ne peuvent pas commencer à créer des applications sur iPhone. Je pense qu'il y aurait des applications bien meilleures sur iPhone si tous les développeurs avaient la possibilité
la possibilité de créer des applications.
Tu sais, je suis tellement modeste, je ne veux pas aller jusqu'au bout, mais
pour toi. Je le fais pour toi, t'inquiète pas.
C'est tellement gentil. twitter.com/yanale.com. C'est une nouvelle technique de messages subliminaux que je suis en train de tester.
Qu'elle va fonctionner. un autre message subliminal qui a été initié par Microsoft ces dernières semaines, c'est le fait que les gens qui sont sur PC ne sont pas assez cool pour avoir des Macintosh. En fait, on vous parle de la nouvelle campagne de pub de Microsoft aux États-Unis où ils mettent vraiment l'accent sur le prix. En fait, bon, expliquons le principe de la campagne. Ils prennent quelqu'un presque au hasard. En fait, il s'est trouvé que ce sont des acteurs. Mais ils leur ont vraiment proposé d'essayer de trouver la machine qui leur convient le mieux parmi n'importe quel ordinateur disponible sur le marché. S'ils le trouvent, eh ben, ils leur payent l'ordinateur en question. Donc, ils les suivent avec leur petite caméra. Ils les regardent en train d'observer les différentes choses dont ils ont besoin, de regarder les différentes machines. Et il se trouve que la première pub qui est sortie, c'était une jeune fille qui voulait un ordinateur portable avec un écran de 17 pouces à moins de 1 000 $. Alors elle va un petit peu partout dans les magasins, elle voit les Macintosh et elle constate évidemment que leurs tarifs sont excessivement élevés, et elle revient dans sa voiture en disant: oui, bon, finalement je suis peut-être pas assez cool pour avoir un Mac. Et ça a été raillé par beaucoup de gens, y compris les fans de Mac. Le point essentiel, c'est quand même que comme je le disais, ils appuient là où ça fait mal sur la question du prix. Et c'est quelque chose, une stratégie qui est sans doute pas si bête que ça dans un contexte où évidemment le contexte financier est difficile, le contexte économique est difficile. Et j'aimerais souligner aussi que dans la deuxième publicité, il y a un type qui regarde les Macintosh et qui dit: ah, c'est super sexy cette machine, mais bon, je peux pas me le payer parce que voilà, c'est trop cher. Donc le truc, c'est que je crois que dans ce type, c'est facile de railler Microsoft, mais c'est très difficile à appréhender, et ce type de communication est difficile à appréhender, et ils ne vont pas totalement à l'encontre du Mac de manière super facile, mais ils reconnaissent les avantages, mais ils citent clairement les avantages que eux ils ont aussi. À noter qu'on ne cite presque pas le nom de Windows, mais c'est vraiment une campagne pour le PC, et ils citent les avantages qu'ils ont, et de manière plutôt cohérente. Donc moi personnellement, je suis pas convaincu par la pub, mais il n'est pas dit que papy et mamie qui regardent quel ordinateur ils veulent acheter pour leur gamin qui part à l'université en début d'année prochaine, ils soient pas convaincus par le fait que payer la moitié du prix pour l'ordinateur, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, d'autant plus que finalement, au-delà de la manière dont va fonctionner la machine, les fonctionnalités de base vont être aussi efficaces sur l'une que sur l'autre. Donc ça, c'est mon analyse de la chose. Je suis sûr que vous en aurez une différente.
Non, enfin, moi, je suis entièrement pour cette publicité, quoi. Enfin, moi, j'étais complètement convaincu, et je dirais même plus, j'ai véritablement expérimenté la chose, puisque je voulais récemment m'acheter un ordinateur portable, et mes exigences étaient simples, hein. Je voulais juste un truc relativement sexy, juste avec une haute résolution et portable, donc haute résolution, j'entends 1080p, et puis finalement, ben, Apple n'a qu'un seul modèle comme ça, c'est le MacBook Pro 17 pouces, et c'est 2 500 € minimum, quoi. Et il suffit d'aller sur le site de Dell et t'as exactement la même puissance et mes exigences, c'est-à-dire juste 1080p à 1 800 €. Donc là encore, enfin, j'ai vraiment vécu exactement ce qui est dans la publicité. je suis allé direct chez Apple parce que je suis très intéressé par leur côté. Ben, c'est vraiment cool, bien léché, bien beau, etc. Mais finalement, une fois que tu regardes la différence de prix, ben, c'était 700 euros de différence pour deux PC qui sont, d'un point de vue technique, rigoureusement, de point de vue hardware, rigoureusement identiques.
Qu'est-ce que 700 euros pour avoir la joie du logo de la pomme? Tu sais que, non mais moi je comprends aussi parce que ouais c'est ça, tu peux mettre ton Dell dans Apple.
J'entends des gens qui disent que quelle horreur un Dell sexy, mais sur la chatroom je précise qu'il s'agit de l'XPS 16, donc avant de dire qu'il n'est pas sexy, allez voir un coup d'œil sur le site de Dell. Ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts sur le côté visuel et look de leur portable, donc il est vraiment sympa quoi. Donc voilà, je voulais juste confirmer.
Jeff, en tant que plutôt pro Apple, fan d'Apple, tu as appréhendé comment cette pub ?
Je trouve que les pubs Microsoft s'améliorent depuis.
Il faut dire qu'ils sont partis de tellement bas.
Depuis Seinfeld. Ouais, depuis la pub avec Seinfeld qui était une véritable catastrophe, on était arrivé au pire que l'on pouvait avoir. Objectivement, moi je suis un fan d'Apple, mais je me force aussi à avoir un PC de manière à pouvoir tester toutes les applications que dans lesquelles je vais essayer de regarder un investissement, aussi bien sur PC que sur Mac, c'est important. Et je trouve que le travail que Dell a fait avec l'XPS récemment est à noter. Et en fait, je suis en train de me tâter, puisque ma tablette PC commence à être un peu vieille, si c'est le modèle que je vais acheter.
Ah ben, moi, j'aimerais bien acheter un nouvel ordinateur portable pour la chatroom là, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes et un petit peu plus intéressantes avec le stream, et j'aimerais bien avoir un Mac, mais c'est vrai que la question du prix me pose aussi un problème quoi. Enfin ouais, mais même un petit MacBook tout simple me conviendrait, enfin pas le blanc, celui avec le truc pour faire les gestures là, tu sais, avec quatre doigts. Okay, comme ça, je montre sur la webcam là. Les gens qui écoutent dans le podcast peuvent pas voir, mais tu fais comme ça. Comme ça. Bon, bref. Pardon ?
Non, je disais que c'est ça. Je pense pas que tu iras très très loin avec un de ces Macs là pour faire du montage vidéo en streaming comme ça directement. Ce sera du PowerPoint. Mais bon.
Oh, tu sais. Je pense que. Enfin bref, peu importe.
Juste pour répondre à la chatroom, un netbook ce serait pas assez puissant pour moi et un Alienware c'est beaucoup trop lourd.
Ah ouais, et c'est immonde surtout. Franchement, les portables Alienware ils sont moches, mais c'est une brique quoi. Enfin bon, on va pas s'étaler sur le sujet.
Encarta, je sais pas si beaucoup de monde se souviendra de cette encyclopédie qui avait été rachetée par Microsoft, mais Encarta est en train de fermer ses portes. Il n'est plus possible de s'abonner au site web et le site web fermera ses portes le 31 octobre prochain. Alors pour la partie nostalgie, Encarta c'était cette encyclopédie qui faisait un petit peu concurrence à l'Encyclopédia Universalis. Moi, je me souviens d'une époque où l'Encyclopédia Universalis tenait sur un CD. Et un dongle.
Et il fallait un dongle, ouais. Et j'avais Encarta aussi, et je suis très nostalgique de cette nouvelle. Mais en même temps, comment tu veux qu'ils rivalisent face à des Wikipédia, des trucs comme ça? C'est.
Comme tu le dis, le truc qui est important à signaler, c'est que ce qui provoque la mort d'Encarta aujourd'hui, il y a d'autres encyclopédies qui continuent, hein, mais Encarta qui était censé être sur le web avec un modèle d'abonnement et une mise à jour contrôlée et éditée, etc. Eh ben c'est la concurrence de Wikipédia. Pour ceux qui ne savent pas, il y a certainement beaucoup de gens qui ont entendu le nom, mais peut-être que certains ne savent pas comment ça fonctionne. Wikipédia est éditable par n'importe qui, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le site et modifier les informations qui s'y trouvent. Alors, il y a beaucoup de gens qui raillent la fiabilité de Wikipédia, et il est évident que sur certains domaines ou sur certaines choses qui sont, par exemple, si quelqu'un à la télé, je pense à Stephen Colbert qui est un humoriste américain qui est très influent, le jour où Stephen Colbert dit il se trouve que sur Wikipédia on dit que les éléphants ont 6 pattes, tu peux être sûr que dans la minute, l'article sur les éléphants est édité pour prouver qu'ils ont 6 pattes avec des photos passées sous Photoshop pour le montrer, des diagrammes médicaux, enfin bon. Mais dans l'ensemble, force est de constater que Wikipédia reste un très bon peut-être pas une très bonne source d'information, mais en tout cas un très bon point de départ pour l'information. Et quand on l'utilise en conjonction avec d'autres outils, c'est un site avec lequel Encarta et d'autres ont beaucoup de mal à lutter. Et voilà, Encarta, qui avait commencé avec un CD qui se distribuait en physique, et ben, est en train de mourir. C'était la petite période nostalgique.
Amen.
Tu l'as utilisé Encarta aussi, Jeff ?
Oui, bien sûr.
Ouais, t'avais le CD.
J'avais le CD, ça faisait partie de l'évolution de ce dont tu avais besoin pour accéder au truc en ligne. Quoi. C'est pas étonnant que ça disparaisse. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis fait, ça m'a étonné qu'ils n'avaient pas déjà crevé.
c'est surprenant qu'ils aient tenu aussi longtemps. Non, mais pour vous dire à quel point ça remonte loin, Encarta, je me souviens qu'ils sont arrivés sur CD à peu près au moment où on parlait de multimédia. Je sais pas si vous vous souvenez de ce terme.
Je me souviens, ce truc. Le multimédia. Passe-partout.
Et la grande nouveauté de la version CD, c'est qu'on pouvait avoir quelques images et quelques photos dans le CD parce qu'il y avait tellement de.
c'était merveilleux.
C'était incroyable. Mais oui, c'est vrai que c'est dingue qu'on soit parti d'une version CD d'Encarta vers une version web comme ça et qu'on puisse y accéder directement depuis des navigateurs. Et en parlant de navigateurs, justement,
magnifique. Alors là,
En parlant de navigateur, on a une nouvelle assez incroyable pour toutes les personnes qui sont équipées de Mac, qui tournent sur Mac OS X. Quelque chose que tout le monde attendait depuis très très longtemps, c'est le fait que Chrome débarque sur Mac OS X. Et Google l'a fait, donc on a une version pré-alpha, donc comprenez par là que ce n'est pas complet de point de vue fonctionnalité et que ce n'est pas stable, mais on a une version pré-alpha de Chrome qui est désormais disponible, que vous pouvez télécharger sur le site de Google. Alors, il manque beaucoup de choses. Il y a par exemple le fait que les bibliothèques de plugins ne soient pas encore disponibles. Donc, comprenez par là que vous puissiez pas avoir de Flash pour le moment sur votre Chrome sur Mac OS X. On peut pas imprimer de page, on n'a pas accès à l'historique. Enfin, il manque quelques petits trucs, mais pour les personnes qui, comme moi, sont un petit peu embêtées par la lenteur des navigateurs qu'il y a déjà sur macOS, moi j'utilise en l'occurrence Safari et Firefox, et c'est d'une lenteur affligeante, et j'attendais Chrome sur macOS X depuis très très longtemps, et j'étais très contente de voir ce navigateur débarquer, mais je l'étais beaucoup moins quand je me suis rendu compte qu'une fois de plus, il s'agit d'un logiciel qui nécessite un processeur Intel, donc pour tous ceux qui ont encore un processeur PowerPC, il va falloir être patient un tout petit peu plus si effectivement il y a une version PowerPC qui pointe le bout de son nez, et ça, rien n'est moins sûr non plus, quoi. Mais voilà.
À noter que quand tu dis les autres sont très lents, c'est vrai, mais c'est surtout que, comme sur PC, quand Chrome est arrivé, on s'est rendu compte à quel point Chrome était rapide. Et c'est par comparaison que les autres sont lents. Hein. Donc, c'est une raison de plus d'aller l'essayer. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'essayer sur Mac, vous serez vraiment surpris de la vitesse. C'est pas que votre Safari adoré est vraiment lent parce qu'il est,
est rapide. Si. Je t'assure qu'il est vraiment lent, quoi.
Bon, dernière chose dont on veut parler vraiment aujourd'hui, avant de parler avant de passer à la section rumeurs et des petites choses dont on se fout un petit peu, c'est la sortie de la DSi, qui est la nouvelle console de Nintendo, la nouvelle console portable, et qui est en fait une Nintendo DS équipée de deux petites caméras, une en interne et une en externe, qui vous permettent de faire des petites... comment dire, de vous en servir pour jouer, en plus du fait que, bon, ça fait une caméra pour prendre des photos. Quand je dis caméra, je veux dire appareil photo, évidemment. On nous
dit... Il faut le dire vite, appareil photo.
Les anglicismes. Et bon, il y a des jeux, genre le jeu Wario, où vous devez bouger la tête pour éviter les trucs qui vous arrivent sur la gueule. Vous devez bouger les mains pour faire des trucs. Enfin bref, c'est encore cette tendance casual gaming qui est très en vogue en ce moment chez Nintendo. Et toujours dans le domaine des jeux vidéo, il y a la baisse de prix de la PS2 qui passe à 99$ ou 98€, qui est pas si surprenante que ça, mais c'est le discours, en fait, enfin le discours, l'annonce qui a été faite en même temps qui m'a un petit peu surpris aussi dans la séquence nostalgie, c'est le fait que Sony espère introduire, enfin présenter à la PS2 à toute une génération de jeunes qui n'étaient pas nés au moment de sa sortie. Ça veut dire que La PS2, ils espèrent en vendre à des gens qui ont 9 ans, puisqu'elle est sortie il y a 9 ans, effectivement. Et j'avoue que ça ne me rajeunit pas. La PS2, 9 ans...
Mais quel gamin de 9 ans voudra acheter une PS2? Enfin, moi, à 9 ans, je veux la dernière console, quoi, le truc qui dit... je sais pas. Franchement, enfin,
j'ai cru que t'allais dire, mais moi à 9 ans, je jouais avec mes Big Jim et mes voitures et mes miniatures, quoi. Je jouais pas aux consoles.
Ah si, j'étais très précoce à ce niveau-là, quoi. Mais je pense que derrière, en fait, ce qu'essaie de faire Sony, c'est essayer de contrer. Du mieux qu'ils peuvent, ben le rouleau compresseur qui est la Wii, quoi, puisque finalement d'un point de vue technique, ben le concurrent de la Wii, c'est plutôt la PS2, pas la PS3. Ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir, et je pense que c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire, puisque finalement la PS2 se vend encore très très bien vu le catalogue plutôt léger de la PS3. Je pense que c'est pas forcément idiot comme
la PS2 est encore un énorme mastodonte, hein. Elle se vend très très bien. Mais c'est à vrai dire, pour moi, ça m'inquiète plus pour la PS3 que je ne vois toujours pas intéressante quelques années après sa sortie. Mais bon,
débat. En ce qui concerne la PS3, il y a quand même un début d'intérêt qui se dessine au Japon. Je crois que cette dernière semaine, c'est la première fois qu'elle a dépassé la Wii en termes de vente. Alors, je pense que les Japonais ont fini par comprendre que la Wii, ça sert à rien, et donc ils commencent à pouvoir acheter une véritable console. Donc on ne sait pas finalement si c'est juste un petit sursaut comme ça, comme c'est notamment déjà arrivé avec la Xbox 360 chez les Japonais, ou si c'est une tendance qui va se confirmer avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ben, apparemment la PS3 commence à intéresser les Japonais, et puis en plus la Xbox 360 n'est pas très très loin derrière, hein. Je crois qu'on est à 3 millions de consoles pour 3 millions de PS3 pour 1 million de 360, donc c'est la première fois que l'écart est si faible entre les oui. deux firmes, et donc c'est plutôt encourageant.
Faible étant un euphémisme, parce que du simple au triple, c'est un petit peu... Moi, ça me paraît gros quand même, mais bon.
Ouais,
ça, c'est uniquement
c'est
la situation au Japon qui est particulière. Ah. Jeff, tu es bien silencieux, tu n'es pas un gros joueur peut-être, ou...
Non, je suis pas, j'ai pas de console. On a décidé d'offrir aux enfants les ordinateurs, donc on a quelque chose comme 7 ordinateurs à la maison, mais on n'a pas de console.
D'accord. Bon, donc pas de PS2 pour tes enfants. Ils ont quel âge, tes enfants ?
Ma fille a 8 ans et elle utilise son Mac plutôt pour faire de la vidéo et du browsing. Et mon fils a 12 ans et il a un PC
et donc,
un portable pour jouer.
D'accord. Et la PS2, ça l'intéresse pas du tout. 12 ans, c'est déjà trop tard, en fait.
Mais ça, non, ça, oui. C'est s'il est puni.
C'est ancient, ça. C'est trop bien. Éventuellement une Wii, ça l'amuserait, mais en fait il a tellement de jeux sur PC que c'est sûr.
Histoire de bien rigoler. Allez, c'est bon, maintenant je suis sur PC.
Allez, puni, tu vas passer 2 heures sur ta PS2. Oh non, papa, s'il te plaît, ne discute pas.
C'est vraiment une punition, hein, franchement.
Bon, on passe.
Non, c'est fais tes devoirs et bosse.
C'est vrai qu'il est sérieux. Alors on passe aux petites infos sur lesquelles on va pas s'attarder, les rumeurs à la con et les trucs dont on se fout un petit peu mais qu'on veut quand même évoquer parce que c'est des choses plus ou moins importantes ou amusantes. Première chose, c'est que IBM finalement n'achète plus Sun, on en avait parlé la dernière fois, ben, finalement ils n'étaient pas contents des conditions que demandait Sun, donc ils ont dit allez vous faire voir, tant pis pour vous. Une autre chose, c'est qu'il y aura peut-être bientôt du contenu premium sur YouTube. On parlait tout à l'heure du fait qu'ils perdent beaucoup d'argent. Eh bien, on a appris qu'ils sont peut-être en négociation avec les studios pour peut-être mettre des films carrément à disposition sur YouTube. Ça serait quelque chose de très intéressant. Un autre truc, c'est que Facebook est en train de préparer sa monnaie virtuelle, son argent virtuel. Ça coûterait 1$ pour 100 crédits et on peut redistribuer les crédits à ses amis ou si quelqu'un fait une mise à jour intéressante de son statut ou met une photo ou une vidéo intéressante, et ben on lui file des crédits. Est-ce qu'il y aurait d'autres usages ? Est-ce qu'on pourrait convertir les crédits en argent finalement au final ? On ne le sait pas vraiment, mais c'est quelque chose d'assez énorme et qui pourrait être très très intéressant et qui changerait un petit peu la donne sur Facebook. Un nouveau nom de domaine est disponible, les domaines en .tel, et ils sont censés réunir toutes les informations sur quelqu'un. Donc par exemple, si Yann achète yanalay.tel, ça serait un modèle commun à tout le monde pour avoir toutes les, tout ce qui est numéro de téléphone, numéro de, enfin, compte ouais. Twitter, compte
toutes
Skype,
les informations de contact. Ouais.
Voilà, bon, pourquoi pas, moi personnellement je m'en passe, mais
d'autant plus que c'est assez cher pour le moment. Hein.
Ça coûte combien un Pointel?
Bah, au début, je crois que c'était dans les $2000 au tout début quand c'est sorti, et après la phase devait passer à une phase où ça coûtait $250. Je crois que c'est la phase dans laquelle on est actuellement, et puis après ça va coûter un petit peu moins cher. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les tarifs qui sont pratiqués pour un point com. Hein. C'est
$250.
Ouais,
c'est vraiment pour les entreprises, quoi.
C'est ça. Ah. Ce qui est étrange, parce qu'a priori, si c'est pour avoir toutes les informations de quelqu'un, enfin bon. Ensuite...
Juste pour revenir sur la monétisation de Facebook et le fait qu'ils introduisent leur mode virtuel, il faut savoir que les grands du domaine en Chine dépassent le milliard de dollars grâce à la monnaie virtuelle. Donc c'est franchement quelque chose d'important, quoi.
Tu parles de qui, par exemple?
QQ. Donc Tencent,
tu veux dire les grands sites, oui, d'accord.
Okay. Les grands sites, oui.
Ok.
Donc les Facebook locaux, qui utilisent la monnaie virtuelle depuis très longtemps maintenant, font énormément d'argent.
D'accord. Donc c'est pas quelque chose de si surprenant que ça, finalement.
Non.
Internet sera sans doute plus populaire que la télévision en 2010 si la tendance continue comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Ce qui n'est pas foncièrement, moi ça ne me surprend pas plus que ça, mais c'est quand même quelque chose de symboliquement énorme. La télévision est en train de perdre de plus en plus de son importance, et là c'est une confirmation de cette tendance. Autre info, c'est que les fondateurs de Skype seraient éventuellement prêts à racheter leur création à eBay. Il faut savoir que eBay avait acheté Skype il y a quelques années au prix fort. Là encore, je crois qu'on parlait de quelque chose comme $1.3 billion. Jeff, tu sauras peut-être plus précisément que moi ces informations financières.
C'était l'offre était $1.3 billion, et il y avait derrière un earn-out, c'est-à-dire un mécanisme qui permet aux fondateurs de gagner plus si jamais la boîte a certains résultats financiers. Et in fine... ce turn-out était $1.5 billion et ils ont gagné quelque chose comme $1 billion, je crois. Mais clairement, le problème, c'était que eBay a racheté Skype sans véritable raison stratégique.
Ils ont vu un truc brillant, ils se sont dit « Oh, on va le récupérer !» et ils n'en ont rien fait du tout, quoi.
C'était mec qui avait décidé que c'était une bonne chose. Et donc, très rapidement, après avoir fait l'achat, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune utilisation possible de Skype en tant que tel. Et maintenant, ils cherchent à s'en débarrasser.
Et ce qu'il y a, c'est que Skype a un potentiel absolument énorme. Il y a peu de temps, ils sont devenus le premier fournisseur de communication internationale au-delà de certaines sociétés américaines, dont c'est la spécialité. Donc il y a évidemment un potentiel énorme. Maintenant, il reste à le transformer, à transformer l'essai, à le monétiser. Et c'est quelque chose que les créateurs du logiciel seraient sans doute à même de faire. Et je pense que si jamais ils réussissent à récupérer leur bébé, on va voir des changements très intéressants assez vite dans ce domaine. Dernière petite
info. Juste quelques chiffres. J'ai tweeté ça il y a 2-3 jours. Skype a 405 millions d'utilisateurs et 8% des communications mondiales passent par Skype.
C'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est proprement incroyable.
Hallucinant.
C'est hallucinant, tu vois, c'est tellement hallucinant que c'est encore
halluciné,
plus...
Patrick, d'ailleurs.
ça m'a hallucimé, oui, et voilà, exactement. J'ai hallucimé. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le fait que eBay n'ait pas réussi à se sortir les doigts des oreilles pour en faire quelque chose...
Patrick, toujours avec la grande classe. Il arrive toujours à se sortir des situations délicates comme ça, à la vraie. Je respecte.
Comme Houdini. Bon, allez, bref, on a compris. eBay, loser, un petit peu quand même sur ce coup-là. Dernière petite info plutôt marrante, c'est que les arbitres italiens n'ont maintenant plus le droit de parler sur les réseaux sociaux, genre Twitter, Facebook et tout ça. C'est une nouvelle décision de l'association des arbitres italiens. Il faut savoir que c'était déjà le cas pour les médias en général. Donc il y a une nouvelle clause qui inclut simplement le fait que les réseaux sociaux comme Twitter sont inclus dans les médias, entre guillemets, mais c'est quand même amusant de voir à quel point ces choses prennent de l'importance, et on peut imaginer que les arbitres qui commentent les matchs là-dessus, c'était pas forcément bien vu non plus.
Je ne sais pas si vous avez vu la news qui est passée aux États-Unis, mais il y a eu 2 ou 3 procès où le jury avait tweeté Et en fait, ça a complètement foutu en l'air le procès parce que clairement, c'était interdit.
Bah oui, on en avait parlé la dernière fois, je crois.
Ah, c'est vrai.
Avec Mathieu. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est un truc qui était assez hallucinant. C'était les jurés qui...
Le copyright et tout ça.
Ouais, bon, bref.
Alors, il y a le Fjord et nous, ça va être hallucinant, d'accord.
Pour les amateurs de WoW Insider. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est toutes les infos qu'on a en stock pour vous. On va passer à notre conclusion avec le conseil logiciel qui, ce coup-ci, n'est pas un logiciel indépendant, mais un plugin pour Firefox. Ce qui veut dire qu'il est disponible autant pour les utilisateurs de PC que les utilisateurs de Mac, et peut-être même ceux de Unix et Linux, hein ? Enfin, Linux plus que Unix. C'est un plugin qui s'appelle Ubiquiti. Ubiquiti, qui veut dire ubiquité, évidemment, en français. Vous voyez comme mes capacités de traduction sont avancées.
Je suis impressionné.
N'est-ce pas ? Et Ubiquiti, en fait, c'est un truc qui vous permet d'avoir tout un tas d'informations sans quitter la page web sur laquelle vous êtes déjà. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un mot, par exemple, vous allez appuyer sur CTRL et espace et vous allez pouvoir voir les définitions de ce mot sur Wikipédia ou sur des dictionnaires. Vous pouvez avoir accès à un tweet, la composition d'un tweet directement incluant ce mot ou l'adresse URL du site sur lequel vous êtes, très facilement. Et il y a tout un tas d'options qui sont configurables. C'est un plugin qui est plutôt bien fait et que j'ai pas mal apprécié, donc je vous recommande. Allez y jeter un coup d'œil, ça vous rendra peut-être des services assez intéressants.
Moi j'ai regardé la vidéo de ce truc-là et ça a l'air vraiment vachement impressionnant. Hein. Enfin, moi, je suis sur Safari, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais en même temps, l'interface m'a fait vachement penser à VI. Donc, pour ceux qui connaissent, peut-être que Jeff connaît puisqu'il a évolué dans le monde du développement.
Bien sûr, moi, j'ai développé sur VI.
Voilà, donc... et en fait, donc VI pour ceux qui savent pas, c'est un éditeur de texte, un peu le Notepad de Linux, mais en version vraiment très très geek. Et c'était le genre de truc où t'avais toutes sortes de raccourcis comme pour Ubiquiti pour faire une manipulation, pour sauvegarder, pour pouvoir ouvrir un document, etc. Fallait taper quelques lettres clés pour pouvoir enclencher un truc. Mais le problème, c'est que quand t'es néophyte et que tu connais pas les raccourcis, tu veux faire un truc et tu fais un truc qui, tu commences à taper des lettres et tu fais complètement l'effet inverse de ce que tu voulais faire. Et t'as l'impression, en regardant la vidéo de Ubiquiti, que en tapant 2-3 lettres, tu fais des trucs de dingue, mais t'as pas forcément envie de faire ça, tu veux juste envoyer un mail. Et donc ça, je me dis que ça doit être assez cocasse, quoi. Au début, la phase d'apprentissage doit être assez particulière et pour les gens qui ont pas l'habitude, ça doit être assez spécial. Mais cela dit, ça a l'air vachement impressionnant et je vais essayer de me l'installer là, puisque sur mon PC j'ai Firefox et ça a l'air vraiment très très sympa. Ouais. Je recommande également.
Bah faites-vous votre idée vous-même en installant Ubiquiti. Une question à vous deux, bande de développeurs, parce que accessoirement moi j'ai été un petit peu développeur à un moment aussi. VI, c'est pas un truc genre Emacs par hasard ?
C'est l'ancêtre
d'Emacs, si d'accord.
Emacs, c'était une interface assez évoluée, alors que VI, c'était vraiment très très basique, puisque c'était censé tourner sur n'importe quelle console Unix, il y a très très longtemps.
Bon, voilà, donc, j'ai quand même... Oui, pardon ?
T'avais l'éditeur en ligne, qui s'appelait Ed ou ED, un truc comme ça, et derrière, tu avais VI, qui était... D'accord. Tu pouvais avoir une fenêtre, et tu pouvais avoir des commandes assez évoluées.
Allez, à vous Patrick, que t'as tapé sur Google vite fait pour pouvoir chercher et nous lancer le truc l'air de rien.
Pas du tout, moi je suis...
C'est sympa.
Non, mais moi je suis analyste programmeur, dans une autre vie j'ai été analyste programmeur.
Oh là là, décidément t'as vraiment toutes les casquettes.
mais en tout cas j'espère que j'aurai gagné quelques points de geekerie avec les plus linuxeux d'entre vous, parce que le fait de me souvenir de Emacs, c'est vraiment le fin fond de ma mémoire, hein. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est VI qui m'a rappelé ça. Bref, peu importe, les gens qui ne sont pas des fous de programmation se demandent d'où on sort toutes ces choses un petit peu étranges. Ouais. Donc on va passer à quelque chose de plus intéressant et c'est notre site fantastique qui aujourd'hui est Wikirank. Alors wikirank.com, c'est un site très intéressant qui compile en fait les chiffres d'accès à Wikipédia dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir le top des articles les plus consultés sur Wikipédia. Et ça donne des informations vraiment intéressantes. Par exemple, la question des maladies. On peut suivre les évolutions, un petit peu comme sur Google Trends, les évolutions de certains sujets, de certaines maladies, en voyant si les gens consultent la page de la grippe, par exemple. Et ben, on se dit, dans cette zone-là, il y a de plus en plus de grippe et ça permet de faire des trucs de prédiction très rapides. Mais c'est aussi assez amusant pour simplement regarder et voir ce qui se passe dans le monde en ce moment. On peut voir par exemple que il y a une évolution assez parallèle entre les séries Lost et Heroes, et il y a des outils de comparaison de ces choses-là avec le nombre de pages vues sur ce sujet. On peut voir par exemple que le 7 avril il y avait 26 357 pages consultées sur Lost et 47 936 pages sur Heroes. Donc voilà, c'est ce genre de petites informations marrantes. Mais bon, il y a des choses beaucoup plus sérieuses aussi. Et ça donne vraiment des tendances assez intéressantes, assez marrantes. Ça s'appelle wikirank.com. Des commentaires sur ce sujet ou...
Data is crack.
Pardon?
Oui, on dit data is crack. Donc tu as énormément de sites de stats aujourd'hui. Où tu vas avoir des choses comme ça qui vont être développées pour pouvoir pour avoir la liste, le ranking des choses les plus populaires, ouais. Que ce soit sur des classements sur Twitter, sur Wikipédia, sur tout un tas de services, et les gens espèrent qu'en fait ils pouvoir développer des business models grâce à cette donnée qui s'accumule.
Ouais. Tu as l'air un petit peu sceptique, donc.
Je suis un peu sceptique. Bah, j'en vois énormément en fait. Hein, donc, ouais. C'est pour ça que.
Oui, c'est pour ça que tu es d'accord. On comprend. Bon, en tout cas, allez voir sur Wikirank. S'ils ne vont sans doute pas faire d'argent demain, c'est plutôt marrant de consulter ces choses-là et puis de voir les tendances qui en ressortent. Et voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Avant de nous quitter, je vais vous inviter à aller voir, à aller sur iTunes pour nous laisser une petite évaluation ou un avis. Pardon, excusez-moi, je vais en profiter pour vous lire deux petits extraits de deux évaluations qu'on a eues ces derniers temps. Là, on est à 49 avis, donc c'est très sympa à tous ceux qui nous ont laissé des avis, c'est très sympa de votre part. On apprécie vraiment 64 évaluations, dont 55, 5 étoiles. Ça, c'est quand même... incroyable.
Sympa.
Moi, je suis. Ouais, c'est. Merci beaucoup. Et il y a Goupila qui nous a dit du professionnalisme, de bonnes infos et une dose d'humour. Donc, j'apprécie le fait que vous compreniez un petit peu ce qu'on essaye de faire avec cette émission, c'est-à-dire pas simplement vous débiter des infos comme un journal télévisé ou une station de radio, mais aussi passer un bon moment ensemble et se marrer un petit coup parce qu'il n'y a pas de raison. Et l'autre avis que je voulais lire, c'était celui de Julien Delenclos. Je ne sais pas si c'est son nom, mais en tout cas, c'est son pseudo. Sur iTunes, qui nous dit « Moi, je vous écoute pendant mon repassage et ma vaisselle. » Et je pense que lui, il a tout compris. C'est exactement comme ça que ces enfants sont utilisés. Non, mais c'est vrai, tu mets ton truc à l'œil, pour le coup. Bah,
en même temps, c'est...
Moi, j'écoute Azeroth.fr quand je vais faire mes courses.
Ah ben voilà, exactement. Comme ça, un truc qui était...
bon, les deux.
Qui était préalablement un petit peu chiant devient totalement amusant. Et je veux dire que les courses étaient un petit peu chiantes, pas le podcast, vous m'avez bien compris. C'est pas le podcast qui devient amusant quand on le fait pendant les courses. Bref, voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Je voudrais évidemment, comme toujours, donner à Yann et Jeff l'occasion de parler de ce dont ils veulent faire la promotion avant de conclure l'émission. Y a un truc que vous voulez pimper aujourd'hui ?
Ah ben... Mais bien écoute, moi je vais juste me contenter de pimper mon Twitter, donc twitter.com/yannallé. Je suis vachement content puisque je crois que j'ai dépassé la barre des 150 followers, donc plus que quelques petits followers pour pouvoir rattraper Patrick. Donc ça c'est génial, donc parce que je me suis mis en tête que d'ici, on va dire 2 mois que je t'aurais dépassé, donc je pense que je suis en bonne voie. Et tu peux nous rappeler à peu près combien t'as de followers, Patrick?
Je sais plus. Attends que je regarde. Parce que ça. Tu sais, c'est un truc. C'est comme le disait Jeff tout à l'heure. Data is crack. Et moi, au début, je suivais ça frénétiquement. Et depuis que. Enfin, c'était à l'époque où quelque chose comme 20 000 followers, ça voulait dire quelque chose. Et puis, depuis que ça se compte en centaines de milliers, que c'est 500, 600, 700 000, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Voilà. Aujourd'hui, je suis à 3190. Followers, donc oui effectivement
c'est cool.
C'est une star.
Non je pense pas, mais c'est sympa d'avoir de non, mais c'est surtout sympa de se dire qu'il y a tant de gens qui se disent je veux entendre ce qu'il a à dire, quoi. C'est très valorisant.
Mais
bon, tu vois, depuis que il y a des gens comme Véronica Belmonte qui ont 300-400 000 followers, bon, ça va, quoi.
Et puis Britney Spears surtout, qui en a je sais plus combien, enfin plusieurs centaines de milliers. Tu dis, mais où va le monde, franchement? Je crois qu'elle a dépassé Barack Obama d'ailleurs. C'est hallucinant.
Ouais, mais bon, il faut rappeler que c'est pas elle qui va tweeter, puisque elle a embauché quelqu'un pour le faire, et ça crée une espèce de mini scandale.
Ah,
oh mon Dieu, c'est pas elle qui tweet. les mauvaises langues disaient, mais de toute façon c'est pas écrit, donc c'est pas étonnant. Et donc limiter la classe. 50 Cent non plus d'ailleurs, l'artiste 50 Cent, c'est pas lui qui tweet. Par contre, Ashton Kutcher, qui est lui derrière le keyboard, j'ai un copain qui a fait une étude comme quoi il pensait qu'il allait dépasser le million de followers d'ici 2 semaines.
Ouh, oh là là.
Ah ouais.
Ouais, et à vrai dire, c'est mérité, parce que là, pour le coup, c'est vraiment lui qui est derrière son clavier, et c'est lui qui tweet, et il s'envoie des vannes avec Demi Moore, qui est sa compagne. C'est comme Shaquille O'Neal, dont on a déjà parlé ici aussi, qui est vraiment lui, c'est vraiment lui derrière le clavier. Enfin bref, bon, on va pas repartir sur Twitter, sinon on va plus s'arrêter.
C'est reparti, une petite couche.
Ouais, c'est ça. ben, au moins, on fait comme tout le monde dans le domaine, hein. On a le même problème, on peut pas s'arrêter sur Twitter.
Ah, tous les podcasts ont le même problème.
Dans tous les cas, twitter.com/YannAllais pour suivre Yann. N'hésitez pas à y aller. À y aller.
J'ai eu droit à cette blague pourrie pour toute ma scolarité. Et merci Patrick de pouvoir me la ressortir encore. Franchement, génial.
Non, ça m'étonne. Moi, c'est comme clavier de piano, clavier de ceci, clavier de cela.
Ah voilà, bah, même combat.
Effectivement. Bah, moi, c'était déjà Béja. Donc, tu vois, on a tous notre petit truc.
Béja, c'est déjà plus difficile de trouver un jeu de mots relou comme ça.
Bah, déjà, c'est un peu dans le
monde. Hein. Bah, allez, tu prends cher quand même quand tu t'appelles
c'est
allez.
Vrai,
hein.
C'est vrai.
Quand le prof dit allez. Et là, tu te lèves et toi, non, je dis juste qu'on va commencer le cours. Enfin, bon, bref.
Jeff, sauve-nous, de quoi tu veux parler aujourd'hui?
Bah écoute, on a déjà parlé de Sismic, de TapTap Revenge, de pas mal de mes boîtes, donc je vais arrêter là. Simplement, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est à Jeff.
twitter.com/Jeff, voilà, et moi c'est bien sûr Note Patrick, les gens le savent, j'imagine et j'espère. Donc si vous n'êtes pas encore sur Twitter, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire y aller.
Tu sais que tu suis si Patrick tweet de façon poussée, ou c'est un compte qui risque de retomber chez toi un jour.
Je suis pas vraiment, mais je crois qu'il le fait de façon assez régulière en tout cas. Il n'a pas les 9 mois nécessaires. Voilà, là je suis dessus 4 heures, 6 heures, ouais, donc.
Ah ouais.
Non, mais de toute façon, maintenant j'ai pris l'habitude avec notre Patrick. Enfin, ceci dit, si tu peux voir Eve et Biz et leur dire ouais, Patrick, il aimerait bien récupérer Patrick. si on peut discrètement, ouais, voilà, faire un petit hack de twitter.com/Patrick, je suis pas contre non plus. Hein. Enfin, bref. Bon, voilà, allez, on va s'arrêter. Le site lrdv.fr, comme d'habitude, le mail tech@frenchspin.com. Si vous voulez nous rejoindre sur les diffusions en live, vous allez sur frenchspin.com et il y a une petite section avec un agenda qui vous indique les diffusions de cette émission avec les horaires précis et les horaires de toutes nos autres émissions en français et en anglais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Je remercie, comme d'habitude, Jeff et Yann d'être avec nous ce soir, et la prochaine émission sera le lundi 27 avril, si tout va bien, avec Corben et Eric de Presse Citron. Normalement, ils seront là tous les deux. Donc, merci à tous, merci à la chatroom, merci à Sir Edwin encore une fois pour l'administration majestueuse, et puis rendez-vous la prochaine fois. Ciao à tous.
Salut,
au
ciao.
Au tout le monde.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.